Aujourd'hui, les amis, nous fêtons un anniversaire. Vous voyez pas? Enfin, il a 3 ans. Mais si, les 3 ans du « Le quoi qu'il en coûte » de Macron.
Joyeux anniversaire,
Manu.
Joyeux anniversaire.
Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte.
Maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, je le dis, le quoi qu'il en coûte, c'est fini.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare,
avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec
Cathy,
Fabrine,
Philippe,
Franck
et Florine, une émission collective à géométrie variable des bénévoles de la Grange au Parapluie, association atypique et espace de vie sociale qui vous propose tous les mois un éclairage sur un thème qui nous tient à cœur. Alors aujourd'hui, joyeux anniversaire!
Quoi qu'il en coûte.
À votre écoute.
Coûte que coûte.
À votre
écoute, coûte,
que
coûte. L'esprit, c'est elle.
Le corps, c'est lui.
Docteur Philippe
et Margaret
de Beaulieu.
Vous vous souvenez de cette émission sur France Inter, À votre écoute, coûte que coûte, diffusée entre janvier et juin 2012? Et toi, Adèle, cette émission te dit quelque chose?
Ben non, tu sais bien que je suis née en 2006.
Oui. Je t'explique. Un couple de médecins, Margaret de Beaulieu, psychothérapeute, et son mari, Philippe de Beaulieu, médecin généraliste, sont deux experts chargés de répondre en direct aux questions santé des auditeurs. L'auditrice lambda que je suis avait trouvé cette émission écoutée par hasard très malaisante, comme tu dis. En effet, ces animateurs, ce couple de spécialistes se renvoyant les questions posées par l'auditeur auxquelles ils ne souhaitent pas répondre, car ces questions sont sans intérêt, ou bien lui répondent finalement sans précaution, avec des réponses humiliantes, irrespectueuses, voire insultantes. Alors question, mais qu'est-ce que c'est que cette émission?
Une blague? C'est sérieux? On laisse diffuser de tels propos? C'est ça la liberté d'expression?
La liberté d'expression. Bon, l'émission de 7 minutes glisse d'une libre antenne sérieuse vers une discussion pseudo-médicale bourrée de clichés réactionnaires, racistes, homophobes, antisémites, dont témoigne d'ailleurs la levée de boucliers de l'ordre des médecins, de Tétu et du CRIJE. Cette émission est entourée de mystères entretenus par la chaîne publique pendant plusieurs semaines. Mais qui sont ces vrais faux médecins? Les rumeurs vont bon train alors que France Inter garde secrète l'identité du couple.
Bon, alors c'est qui ces animateurs?
On apprendra que derrière les voix, on retrouve Zabou Breitman et Laurent Lafitte.
Ah, de la comédie française.
Oui, deux comédiens qui jouent précisément la comédie. Comédiens, tout comme le pseudo pauvre auditeur qui passe à l'antenne, que l'on plaint d'avoir osé décrocher son téléphone pour des conseils, que l'on plaint d'être humilié ainsi en public par les propos du couple. Donc, l'objectif commun de cette petite bande est la parodie. Ils rendent compte des clichés sur des sujets d'actualité et dénoncent l'hypocrisie ambiante.
Le nom du couple de Beaulieu pouvait te mettre sur la piste de la supercherie?
Oui, les lieux communs deviennent la norme. Cette émission questionne aussi sur la place de l'humour dans les médias.
Oui, comment rire avec quelqu'un que l'on ne connaît pas?
En effet, pour rire des propos, des situations et des personnages, il faut que le récepteur, l'auditeur ici, accepte la complicité, la connivence avec l'émetteur. Mais qui sont-ils, ces animateurs radio, justement? De plus, ces quelques minutes de radio questionnent la place des experts.
Oui, ceux-là même qui grouillent sur tous les plateaux télé aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, la maxime latine « anima sana in corpore sano » utilisée dans le générique fait sourire par la façon dont les faux, vrais spécialistes la prononcent sur un ton à un brin désuet. Mais surtout, la formule questionne aussi l'argument d'autorité. Le latin est-il gage de sérieux, de référence incontestée et incontestable? Bon, pour conclure, si je n'ai pas été la première ni la seule à ne pas savoir comment recevoir à votre écoute coûte que coûte, que je t'invite Adèle à découvrir, les indices de la parodie sont pourtant nombreux et évidents. Par l'exagération à tous les niveaux, exagération qui nous fait réagir par le rire, l'exagération qui nous fait réfléchir en dénonçant. L'ambiguïté sur cette vraie fausse émission est-elle objectif visé ? Une forme de radio-réalité entretenue avant, pendant et encore après son lancement sur les ondes du service public avec la mise à disposition d'une ligne dédiée pour les appels des auditeurs pour faire vivre la liberté d'expression coûte que coûte. Spill my love, it's just from above. The wound cut down to the bone. Leave me all alone. Cause a knife is too sharp, a knife is too sharp, baby. But then I met you, you took away my blues. But I don't wanna fall love.
Rick et Pavé, l'émission qui dégrange.
Chers auditeurs et auditrices et chers comparses, je vous propose maintenant un exercice de réappropriation de vocabulaire, notamment à destination de Gérald et Manu, donc Gérald Darmanin. Je pense qu'effectivement, tout est bon actuellement quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place pour stigmatiser, pour disqualifier la parole de l'autre. On le voit beaucoup à la radio et à la télé. Et notamment, effectivement, les gens, les organisations, les ONG, les associations font effectivement les frais de cette espèce de lieu commun qui fait que si on n'est pas d'accord, eh ben on n'est pas une voix légale et pas une voix normale. Voilà, donc petit exercice à l'attention de Gérald notamment.
Je suis lecteur de Têtu, Pif Gadget et Playboy. Leur dernier numéro m'a beaucoup, beaucoup déçu.
Je suis photoreporter indépendant.
Je ne suis pas un bobo bien pensant privilégié.
Je suis bénévole dans un espace de vie sociale.
Je ne suis pas un bobo bien pensant privilégié.
Je suis magasinière dans une entreprise de logistique.
Je ne suis pas un bobo bien pensant privilégié.
Je suis féministe convaincue.
Je ne suis pas un bobo bien pensant privilégié.
Je suis l'Office national des forêts.
Je ne suis pas une organisation terroriste.
Je suis impliquée dans le droit au logement.
Je ne suis pas une organisation terroriste.
Je fais partie de la CGT.
Ce n'est pas une organisation terroriste.
Je suis la LDH.
Je ne suis pas non plus une organisation terroriste. Et donc spéciale dédicace à une autre émission de Radio B qui parle de la Ligue des droits de l'homme. Tout ça pour vous montrer qu'effectivement, on met sur le dos des gens des casseroles qui ne sont pas les leurs et que tous ces groupes et tous ces gens qu'on vient de citer sont des gens qui sont dans le bon droit et qui ne sont pas à côté.
Ça m'énerve.
J'entre au coste boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadi et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de sauce.
Qui est pavé.
L'émission qui dégrange.
Allez Fabrine, t'as bien quelque chose à nous dire ?
Bah oui.
Allez, c'est à toi.
Nous revoilà donc à interroger le coût et le prix. La société fait de cette mesure la valeur de toute chose. Ainsi, même la solidarité est mesurée et coûte, selon la Macronie, un pognon de dingue. Je me demande donc à quel coût on évalue la vie humaine, la dignité et l'accès aux droits élémentaires. À combien évalue-t-on la décence ? En parlant de décence, justement, si le coût de la solidarité est souvent chiffré, commenté, analysé, celui des riches semble avoir moins d'écho, bien que la réflexion commence à faire mouche. Et pourtant, mais qu'est-ce qu'elle est intéressante, la question de savoir combien nous coûtent les riches ? Pinson, Charlot sont les premiers, ce me semble, à avoir montré que les riches, les bourgeois, les puissants pouvaient et devaient être pensés comme objets d'études sociologiques. À travers leur lecture, on comprend les us et coutumes de cette caste, leur stratégie de conservation et d'évolution, leur entre-soi. Leur travail doit être salué tant il a ouvert des brèches et permis d'entrevoir la face cachée d'un microcosme peu reluisant. Une fois n'est pas coutume, je vais parler de chiffres, car il est toujours utile d'utiliser le langage de son adversaire pour le contrer. Alors, combien coûtent les riches en quelques chiffres ? Selon Jean Gadret, dans un article d'Alternative économique daté du 20 juin 2018, l'aide sociale et les minima sociaux coûtent environ 70 milliards d'euros aux finances publiques, soit 3% du produit intérieur brut. Somme coquette, me direz-vous, mais sans doute anecdotique. Ces aides permettent, dans une mesure tout aussi anecdotique, de réduire les inégalités. Tandis que l'assistance aux plus riches est évaluée, elle, selon Jean Gadret, à 150 milliards d'euros. D'autres tiennent plutôt le chiffre de 80 milliards. Or, fraude et évasion fiscale, bien sûr. Si l'on tient compte de ces deux dernières, Jean Gadret estime alors le coût des riches entre 250 et 300 milliards d'euros. Alors je dis anecdotique car, pour information, Bernard Arnault, homme le plus riche de la planète, perçoit 50 000 euros par minute. Là, les chiffres me laissent songeuse. Mais ce n'est pas fini. Le rapport d'Oxfam du 16 janvier 2023 montre que malgré, ou peut-être grâce, mais ça c'est moi qui le rajoute, malgré donc les crises que nous traversons depuis 2020, les 1% des plus riches ont fait main basse sur les deux tiers des richesses produites dans le monde. En France, je cite, avec les 236 milliards supplémentaires, engrangés en 19 mois par les milliardaires, on pourrait quadrupler le budget de l'hôpital public. Là aussi, les chiffres me laissent songeuse. Mais ce n'est pas fini. L'impôt sur le revenu devrait idéalement permettre de taxer les riches et de réduire les inégalités. C'est l'esprit même de l'impôt. Plus on gagne, plus on est taxé. Mais les riches tirent l'essentiel de leurs revenus de leur patrimoine, dont ils ont le plus souvent hérité. On peut donc ici s'interroger sur la fameuse notion de méritocratie. Bon, laissons de côté cette question. Si théoriquement le taux d'imposition sur le revenu monte jusqu'à 45%, d'après Bercy, le taux d'imposition sur le revenu effectif est plafonné à 25% pour les personnes gagnant 1 million d'euros par an, puis diminue peu à peu. Par quel biais cette magie opère-t-elle ? Par la magie des nombreuses niches fiscales qui permet à tout ce petit monde de baisser son taux d'imposition. Pour plus de détails, je vous renvoie au numéro 57 de l'excellent périodique Socialité d'avril-mai 2023 qui a pour titre « Manger les riches ». Là aussi, donc, les chiffres me laissent songeuse. Mais ce n'est pas fini. Dans le monde, un milliardaire émet 1 million de fois plus de carbone qu'un citoyen ordinaire. En France, 63 milliardaires émettent autant de gaz à effet de serre par leur patrimoine financier que 49,4% des ménages français. Là aussi, les chiffres me laissent songeuse. La France insoumise propose de taxer les revenus supérieurs à 400 000 euros à hauteur de 90%. On pense cela impossible et j'entends certains hurler à la mort que Robespierre est revenu. Toutefois, en 1924, en France, les riches étaient taxés à hauteur de 72%. Ils l'étaient à hauteur de 94% en 1944 aux USA. Il ne s'agit donc pas d'une utopie. Oui, c'est possible et c'est un choix politique. Alors je pose la question, jusqu'à quand supporterons-nous de payer pour les riches ?
Arrête de dire que je vais pas bien. Comment comprendre ?
cherche un circuit pour que je m'éclate. La cigare, je peux contrôler.
David, bonjour. C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux 100 fleurs du mois de mai. Je suis certain que tu auras reconnu ces bribes de la chanson de Ferrat, camarade, même si ni toi ni moi n'étions nés en 1969, date de sa sortie. Macron nous sert depuis de très longs mois sa version du « quoi qu'il en coûte », quand ça l'arrange et quand ça arrange ses soutiens ou les supposés piliers économiques du pays. Avec le « quoi qu'il en coûte », macronien, à chaque tour, c'est toujours les mêmes qui raflent les zéros sur la case départ. Et trop souvent, les mêmes qui sont bloqués sur la bande d'arrêt d'urgence. Le ruissellement a fait long feu, c'est le stress hydrique en Macronie, et ça ne ruisselle plus. On dirait plutôt que l'on assiste à de l'évapotranspiration du bas vers le haut. Voilà, c'est dit, monsieur le président, ton rafio prend l'eau, tu nous méga-bassines. Mais revenons sur terre. Briquet Pavé est là, sur les ondes de Radio B, pour poser des mots sur la période que l'on vit, pas avec des chroniqueurs spécialistes autoproclamés, mais avec vous toutes et tous. David, toi qui es impliqué syndicalement, peux-tu nous dire depuis quelle date remonte ton engagement ?
Alors, mon engagement syndical a commencé en 2004. À l'époque, j'avais 26 ans, je travaillais chez Renault Trucks. Je suis rentré, parce que j'étais embêté par un chef, je suis rentré à la CFDT. Et de là, je me suis engagé syndicalement. Et depuis 2015, je suis passé à la CGT, suite voilà, un peu de dépit avec la CFDT. Et donc, je milite depuis 2015 activement à la CGT, aussi bien chez Renault Trucks qu'à l'Union départementale de l'Ain.
Donc, on voit qu'on est au 12e jour de mobilisation, puisqu'on enregistre aujourd'hui cette chronique 12e jour de la mobilisation par rapport à la réforme des retraites. Moi, je trouve qu'elle a un côté inédit parce qu'on a des salariés du public, du privé, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Je crois que les gens gagneraient à aller voir les manifestations avant d'en parler. Donc, on voit des gens qui sont ensemble, même s'ils ne sont pas complètement à 100% raccord. À titre d'exemple, la CGT, ton syndicat, la Confédération Générale, mais aussi la CGC, par exemple, pour ne prendre que ces trois exemples. Ils ne sont pas tous les combats côte à côte, mais là, oui. Est-ce que tu trouves que cette mobilisation, cette fois-ci, est différente?
Alors, oui, elle est différente de toutes celles qu'on a pu connaître, je dirais, depuis une vingtaine d'années. Il faudrait remonter à loin. Disons qu'il y a une intersyndicale, cette fois-ci, qui tient bon. Après, on peut se poser la question, pourquoi elle tient? Elle tient parce que, quand on distribue de temps en temps, qu'on fait du tractage le long des routes, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'une immense majorité de la population comprend cette réforme, comprend qu'elle est injuste, qu'elle n'est pas justifiée financièrement. Et on a vraiment l'opinion publique derrière nous. La retraite, ça touche tout le monde. Donc avec cette pression populaire derrière, avec effectivement tous ces corps de métier touchés, avec tous ces secteurs, les hommes, les femmes, tout le monde, parce que les femmes sont aussi les grandes perdantes de cette réforme, on se retrouve avec des manifestations très différentes de ce qu'on a pu connaître dans le passé et d'une ampleur qu'on n'a pas vue depuis plus de 30 ans.
Donc c'est différent par rapport aux gens qui sont là et qui sont effectivement convaincu qu'il se passe quelque chose de grave si effectivement cette loi passe. Cette mobilisation, elle est longue et du coup, c'est pas neutre. Et on va maintenant aborder une question plus technique, mais qui est aussi fortement concrète. C'est effectivement, faire grève, ça veut dire effectivement renoncer financièrement à une partie de son salaire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment les syndicats ont essayé de construire des bouts de réponse par rapport à cette problématique du frein économique à la grève, avec notamment les caisses de grève.
Alors, déjà, pour resituer les choses, on va rappeler que quand on est en grève, on n'est pas payé. Hein. Ça, c'est la base.
C'est bien de le redire.
On a le droit de grève, on n'est pas payé. Alors, nous, dans le privé, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui prennent il y a un appel national, des gens qui prennent la journée entière. Alors, effectivement, ceux qui en sont 12 jours de grève, ça commence à peser sévèrement sur les salaires. Après, il y a beaucoup d'entreprises où on appelle à, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens soient dans la rue avec nous, on appelle à manifester, ce qui fait juste le temps de la grève. Donc, par exemple, dans mon entreprise, clairement, les gens, ils viennent en grève, ils perdent 2 heures de salaire par jour. Donc, effectivement, 12 jours, ça commence à peser, mais ça limite déjà pas mal. Après, il y a la problématique du privé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au dans le privé, on peut pas faire une demi-journée, 1 heure ou 2 heures de grève. Dans le privé, c'est 1/30 du salaire qui saute dès la première heure de grève. Donc, eux, clairement, c'est une journée, en gros, la journée qui saute. Alors après, Il y a effectivement les caisses de grève. Alors certains disent que les gens sont payés par les syndicats en grève. Alors déjà c'est faux sur le principe. Il y a la CFDT qui a cette particularité d'être le seul syndicat en France qui a effectivement une caisse de grève. C'est une indemnité de mémoire, il touche 7,50€ de l'heure les adhérents CFDT à partir du troisième jour de grève complet. Après, bon, je parlerai plus pour ma paroisse qui est la CGT. À la CGT, nous, on n'a pas de caisse de grève. Par contre, par rapport à ces grèves sur les lois retraites, des caisses de grève ont été lancées sur Internet, où on a des gens qui nous font des dons via Internet. Il y a aussi, nous, des militants, à toutes les manifestations, on a quelques militants dans nos cortèges qui ont des petites boîtes avec eux, qui secouent allègrement, et des gens viennent nous mettre un billet, une pièce dedans, donc voilà. Aujourd'hui, on a défini, nous, bien sûr, des modalités pour savoir qui peut toucher cette caisse de grève. Et donc, à partir de la 22e heure, c'est-à-dire que les 21 premières heures, c'est perdu. Par contre, à partir de la 22e heure de grève, on indemnisera, en fonction de ce qu'on a touché, on a décidé à 10€ de l'heure. C'est une caisse qui est réservée aux adhérents des syndicats, aux adhérents CGT. Après, les gens ne vont pas sortir riches de la grève. J'en espère juste qu'ils en sortiront plus jeunes à la retraite.
Et Manu ! Bah Manu, tu descends ?
Et pourquoi faire ?
Bah je sais pas, moi, descends.
Et pourquoi faire ?
Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends.
Et pourquoi faire ?
Non, mais le message double, c'est effectivement un, que on est outillé pour comprendre les contraintes de chacun dans un mouvement qui est long comme ça. Et tu l'as bien dit, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple non plus. C'est-à-dire qu'on peut, être solidaire sans être gréviste, et notamment avec cette formule des dons. Donc, je pense que c'est important. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai fait que quelques manifs sur des congés, et une fois seulement en posant un vrai jour de grève. Je fais partie des gens, et je le dis en toute simplicité, qui peuvent trouver que ce n'est pas facile de se mobiliser parce qu'on a des environnements pro qui parfois sont très peu syndiqués. Avec aussi, on en a parlé en préparant cet entretien, une résignation polie autour de nous sur toutes ces questions-là. Mais je tiens à le dire, j'ai pas vu de nantis. J'ai pas vu effectivement des gens qui dans les cortèges effectivement étaient au-dessus du lot et en dehors d'eux. C'est des gens qui effectivement ont la tête sur les épaules, des gens normaux. Et je dois dire que ça fait du bien le collectif et tout d'un coup être dehors avec des gens que l'on ne connaît pas ou alors seulement de vue. Être ensemble dans l'espace public pour une chose dont on sent qu'elle nous dépasse, c'est fort. Quand je dis nous dépasse, j'entends par là que ce n'est pas juste pour notre petite pomme ou notre nombril qu'on en est là, mais pour quelque chose de plus haut et de plus beau. Et tu l'as dit, c'est une question qui est un peu la question subsidiaire, mais je sais qu'elle te tient à cœur, qui est effectivement sur tout ce sens plus largement du commun, et effectivement de voir comment des choses, en fait, de façon un peu ouverte, comment on peut garder cette envie de faire société. Et contrairement à ce qu'on croit et qu'on entend trop, les syndicats sont parfois des vecteurs du faire société et sont pas des francs-tireurs qui démobiliseraient une soi-disant équilibre.
Les syndicalistes, pour rappeler aussi les choses, hein, j'aime bien revenir à la base quand même. À la base, c'est des gens qui sont élus, c'est des représentants du personnel. Hein. Moi, je me considère comme un représentant élu par mes collègues de mon entreprise. Par le passé, on parle souvent d'acquis sociaux. Moi, j'irai plus loin et je parlerai de conquis sociaux, puisque tous les acquis que nous avons aujourd'hui, ils ont été conquis par la lutte de nos anciens. Dans mon militantisme, j'ai ce profond respect pour ceux qui sont passés avant nous, qui sont morts et qui se sont battus, qui ont fait qu'on a eu des congés payés, qu'il faut qu'on ait eu tout un tas de choses qui, en leur temps, étaient parfaitement inimaginables.
C'est important et du coup, je trouve que tu remets les points sur les i. Et effectivement, on est loin d'être dans la démarche supposée égoïste de petits groupes. On est sur quelque chose dans le temps long et pour plus large que ses proches ou que son...
Oui. On est dans des pays où il y a de l'argent, où on entend parler souvent de millions, de milliards. Les gens font pas très bien la différence. Mais il y a une chose qui est certaine, on parle souvent de l'État, on parle souvent des sous, des caisses de sécurité sociale, des caisses de chômage, des caisses de retraite. De tout cet argent, c'est pas la planche à billets qui crée l'argent. L'ensemble des richesses de ce monde est produit par les gens qui travaillent.
On est d'autant plus légitime à voir comment peut être utilisé et réparti l'argent qu'on a contribué à cette richesse. Bon, pour finir cette chronique, je te livre, après les bons mots d'introduction de Jean Ferrat, cette fois-ci des mots d'Agnès Bille, inspirés de Renaud. Emmanuel, rentre chez toi, t'es trop plein d'arrogance, et pour un chef d'État, tu frôles l'indécence. Si tes petits copains déboursaient leurs impôts, au lieu de se planquer dans les paradis fiscaux, ça ferait des retraites pour les retraités. Encore merci à vous toutes et tous, Agnès, Renaud, Jean, et toi aussi, bien sûr, David.
Merci à toi, Philippe.
Une gare,
c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Emmanuel, rentre chez toi, t'es trop plein d'arrogance. C'est pour un chef d'État, tu frôles l'indécence. Si tes petits copains déboursaient leurs impôts, au lieu de se planquer dans leurs paradis fiscaux, ça ferait des retraites pour les retraités. Je sais, tu trouves ça bête, mais bon, ça peut aider. Au menu des missions, là y'a saturation. Rien n'est bon dans le Macron, sauf pour les grands patrons. Monsieur le Président, s'il te plaît, va mourir. Monsieur le méprisant, tu mens comme tu respires. Les violences policières, non, ça n'existe pas. Puis d'ailleurs, Castaner, c'est la mère Teresa. Du coup, tu continues de te prendre pour un dieu. Quand tu nous pisses dessus, BFM dit qu'il pleut. Allez, casse-toi, Manu. Cette fois, la coupe est pleine, on t'a tous assez vu. C'est la fin de ton règne.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif.
40 milliards d'euros versés aux entreprises. Macron et ses amis ont créé le fonds de solidarité face à une grippe inconnue appelée Covid-19. Le fonds de solidarité a permis d'indemniser une partie des pertes de chiffre d'affaires des entreprises fermées du fait des restrictions sanitaires. Si le fonds de solidarité n'existe plus depuis juin 2022, les aides versées ne sont pas encore définitivement acquises pour les entreprises bénéficiaires. Les squelettiques services de l'État courent désespérément après une fraude massive. Mais c'est évidemment trop tard. Et ce pognon de dingue versé par Macron est ad vitam aeternam parti dans la nature. Il n'y a en effet plus assez de fonctionnaires pour récupérer un max de milliards versés à tort, voire au pif. Souvenez-vous, le gourou de Macron, un certain Sarkozy, avait déjà sauvé les banques de la crise financière en 2008. Son plan dévoilé, Sarkozy, en octobre 2008, prévoyait d'accorder jusqu'à 360 milliards d'euros aux banques. Et selon le rapport de la Cour des comptes, l'État aujourd'hui n'a finalement déboursé que 120 milliards d'euros. Ouf. Bon, je calcule, 120 milliards en 2008, 40 milliards en 2022. Ça me fait 160 milliards d'euros sortis de la poche d'un État français soi-disant surendetté. Des subventions publiques qui coulent à flot, la planche à billets de la France qui déborde, mais pas pour ceux qui sont dans le besoin, pas pour les pauvres, pas pour les futurs retraités, pas pour les petites retraites, non. Ce flouze est destiné à notre système économique qui s'assume, bombe le torse et nous regarde fièrement du haut de ses pratiques opulentes, voire insolentes. Les banques ont-elles remboursé alors? Comme souvent, les chiffres se contredisent, mais au final, non. Elles n'ont évidemment pas tout remboursé à l'État. Il manquerait autour de 13 milliards. Tiens, ce chiffre de 13 milliards tombe à pic. Écoutez plutôt ce qui suit. L'objectif du gouvernement actuel concernant la réforme des retraites, qui est passée tout fraîchement en mode autoritaire, c'est l'équilibre de notre système de retraite par répartition. Le scénario du Conseil d'orientation des retraites, sur lequel s'appuie Elisabeth Borne, qu'on prononce aussi Borné ou Borgne, table sur un déficit de l'ordre de 13 milliards d'euros en 2030. Pile ce que les banques, à minima, ne rembourseront pas de la crise des subprimes 2008. Ajoutez donc à cela le Covid et ses 40 milliards d'euros, et vous n'avez évidemment aucune urgence à nous envoyer au turbin jusqu'à 64 balais. Et encore là, je n'aborde pas la fiscalité en général, car d'autres solutions fiscales existent en parallèle pour financer nos retraites par répartition. Comme, je voulais le citer, remettre une TVA dite taux de luxe de 33% sur des produits ou des prestations spécifiques. Un exemple, sur par exemple la consommation d'eau excessive, après un seuil de mètres cubes raisonnable. Une autre idée, 33% sur les yachts, les quads, les jets privés, les robes Dior, les produits de luxe en général, vous me voyez venir. Pour mémoire, la France a déjà eu un taux de TVA majoré pour les produits dits de luxe, qui était fixé à 33,3%. La notion de produit de luxe était même d'ailleurs très large. Pour tout vous dire, les voitures en ont même fait partie. Ce taux majoré, en France, a été malheureusement supprimé en 1992 pour se mettre en conformité avec les règles de l'Union européenne. Quoi qu'il en coûte, ce gouvernement libéral français en a trop fait pour les banques en 2008, trop fait pour les entreprises entre 2020 et 2022. Alors faut choisir un État absent quand il faut faire du social, mais d'un coup de baguette magique, un État omnipotent quand il s'agit d'aider le secteur privé. Bah, c'est ça le système économique libéral, qui d'ailleurs crée aussi l'actuelle inflation sur les produits de première nécessité. Un libéralisme économique sauvage qui s'assume, en cas de besoin, à coup de 49-3 à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il lui en coûte. Allez, rendez-vous lundi prochain pour le 1er mai.
La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir.
Mesdames, messieurs et chers actionnaires, je tiens à vous dire, pute salope, enculé, couille canard, mal monté, branleur pisseuse, garce suceuse, que le dernier conseil d'administration, fion, con, que tête de nœud, sac à bise, chieur de mythe, a décidé à l'unanimité. Fils de pute, enfoiré, reluqué, mal baisé, foutre de chien, fumier de lapin, de vous saluer. Grand couillon, merde, chier, con, pine, morue, trou du cul. À jeudi prochain.
Brique et pavé, l'émission qui dégrange.
Bon, les copains, les copines, ça vous dit un petit jeu?
Oui!
Je vous propose le juste prix. Jingle! Parfait. Je vous en rappelle le principe très simple. Vous devez estimer des prix. On n'est pas toujours au milliard près. Hein. Pour gagner, à peu près rien. C'est comme dans la vraie vie. Comme ça, c'est plus simple. Hein. C'est bon pour tout le monde?
Oui.
Bref, vous vous trouvez un buzzer. On est à la radio. Levez la main. Ça sert à rien. Vous êtes prêts?
Oui.
Question number one. Je le dis en anglais car la réponse est en dollars. Quel est le coût estimé de la reconstruction de l'Ukraine si la guerre s'arrêtait maintenant?
112 milliards
dollars,
en
dollars,
112 dollars, excusez-moi.
112 dollars
112 milliards de dollars, excusez-moi.
200 milliards.
Eh bien, il s'agit de 350 milliards de dollars. Pas mal, hein? Question numéro 2. Quel est le coût de la Covid pour les années 2020, 2021 et 2022? Oh. Allez-y.
C'est plus que l'Ukraine?
Ah, ouais.
100 milliards.
10 fois plus que l'Ukraine.
Non.
Non.
Tu triches.
Il s'agit de 424 milliards d'euros, soit la reconstruction de l'Ukraine, plus un garage et une piscine. Génial, hein? Question numéro 3. Quel est le coût de la prévention de la famine?
Je pense que c'est moins que la reconstruction de l'Ukraine.
Oh, oui, largement moins. Alors?
C'est moins que le mercato foot. 4 milliards.
Ah, moins que le Covid aussi.
Ouais. Ah, Franck, t'es pas loin. Il s'agit de 7 milliards de dollars.
Alors,
attention, vous allez sentir que c'est facile, la question 4. Quel est le coût approximatif des JO de Paris?
Beaucoup trop. 10 fois la famine.
Comme la prévention de la famine.
Eh ben voilà, un point pour Cathy. Au plus bas, environ 7 milliards d'euros. Ben voyez, c'est pareil. Attention, question numéro 5. Quel est le coût d'une vie? Commençons en France. Alors,
c'est impossible à évaluer une vie.
Eh bien écoutez, ça a quand même été évalué à 3 millions d'euros pour la France. Aux États-Unis, vous diriez
5 millions de dollars.
Plus.
15 millions de
moins.
Dollars.
10. Allez, presque. Allez, un point pour Fabrine. Il s'agit de 9 millions de dollars. Au Bangladesh,
Au Bangladesh.
C'est bien moins. 100 000 euros.
100 000 euros. Oh, mais non. Oh.
10 000 euros.
Allez, je vous dis 5 000 dollars. Et ouais, il n'y avait pas écrit millions là. Hein. Putain. Et ouais. Bon, bah quel est le coup de la mort? Une inhumation en province, c'est 5 000 euros. Comme la vie au Bangladesh. Et une crémation, c'est un peu moins cher, vous diriez, en province, hein, parce qu'à Paris, rien à voir.
1 500 euros.
Allez, encore un point pour Franck. Il s'agit de 3 000 euros.
C'est moi qui étais plus près.
Tu es pour les pompes funèbres.
Ah, il a dit 3 500.
C'est moi
qui étais plus près.
Ah, pardon. Donc, deux points pour Fabrine. Bon, et quel est le coût des règles pendant, allez, imaginons, 40 ans de Ragnouf? On reprend un petit chiffre d'avant, non, hein, vous avez compris.
Après, si tu prends une cup ou une ou des tampons,
c'est une moyenne.
Ça fait vraiment des grosses différences.
C'est vrai, mais faisons une moyenne. Eh ben non, ça coûte une vie au Bangladesh, 5 000 euros environ. C'est la fin des petites questions, mais quand même, ce qui est marrant, c'est qu'en cherchant ces incroyables informations sur le net, eh ben les algorithmes ont gentiment fait des propositions de recherche, réponses incluses, dont celle-ci, combien coûte une femme? Ça laisse perplexe, mais il y avait quand même une réponse. Eh bien, figurez-vous, plus cher qu'un homme, en raison de la charge... plus ou moins obligatoire, maquillage, épilation, coloration des cheveux et autres manucures. Voilà, que dire. Bah voilà. Comme prévu, vous n'avez rien gagné, mais ça m'a bien coûté le souffle.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Bon, bah voilà, on va finir cette chouette fête d'anniversaire au champagne, ou plutôt dans les larmes.
Ou au bruit.
Allez, santé quand même.
Ah,
Chine.
Bien, celui-ci est pas mal.
On se retrouve dans un mois avec un thème tout aussi ésotérique. Vous verrez bien.
Ouais.
On finit avec une petite balade des vulves assassines
que
vous pourrez retrouver le samedi 15 juillet au No Futur à la Grange au Parapluie à
Saint-Julien-sur-Essauze.
Mais avant, rendez-vous le 1er mai pour la fête du jeu en bois à la
Grange au Parapluie.
Youhou, bisous, bisous, salut.
On s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder.
La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite.
On s'arrêtera pas là. On peut encore écrire nos
soir, dans les parcs, on était des gars calibérés. Les cheveux gris au vent, courant à droite vers le levant. Qui fait chanter et faire des rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. La retraite.
Briquet pavé pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange aux Parapluies.
Briquet pavé,
l'émission qui dégrange.